RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à toutes et à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Nadir Jénad de l'agence Reuters, Valérie Thorin, africasie.fr et puis Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Au menu de cette édition, la RDC et l'ONU qui donnent son feu vert à un report à fin 2018 des premières élections post-Kabila qui accuseront ainsi 2 ans de retard sur l'agenda prévu. Et puis l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères sous Abdoulaye Wade, Cheikh Tidiane Gayo, accusé de corruption, notamment par la justice américaine. Le président tchadien, Idriss Déby Itno, est aussi cité dans ce dossier. D'abord, ce bail supplémentaire d'un an accordé à la transition en RDC par l'ONU, au lieu de 2019 annoncé mi-octobre par Corneille Nanga. Eh bien, les premières élections post-Kabila devraient se tenir fin 2018. D'abord, la réaction de Félix Tshisekedi de l'UDPS.
Le mot d'ordre avait été lancé pour mobiliser notre peuple afin qu'il barre la route à cette supercherie que nous prépare Kabila et son camp, de poursuivre le processus politique électoral dans notre pays jusqu'à avoir cette alternance que nous appelons de tous nos voeux. Tout doit se faire sans Kabila parce que sa présence à elle seule justifierait le fait que nous n'ayons pas d'élection en 2018.
Félix Tshisekedi appelle à la vigilance. Hein. Il est vrai que Joseph Kabila était censé, Nadir, quitter le pouvoir présidentiel fin 2016, au terme de ses 2 mandats autorisés par la Constitution. Et là, il va avoir un bail supplémentaire de 2 ans. Et rien ne nous dit que la date du 23 décembre 2018 annoncée par l'ONU sera respectée.
Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que l'ONU s'incline devant le fait accompli. Une élection était prévue en 2016-2017. Elle n'a pas cessé d'être repoussée. L'ONU s'incline, mais reste méfiant parce que le Conseil de sécurité a indiqué fin novembre que l'échéance électorale qui doit avoir lieu fin décembre 2018 doit être respectée. Mais au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies fait cette adresse au régime de Joseph Kabila, des manifestations de l'opposition sont interdites à Kinshasa. Deuxième chose, c'est qu'on constate aussi une impuissance de l'opposition. L'UDPS, le parti de feu Étienne Tshisekedi, est scindé en deux. D'ailleurs, s'est tenu la semaine dernière un conclave organisé par l'aile de l'UDPS dirigée par Bruno Tshibala, et l'objectif de ce conclave était de préparer la succession d'Étienne Tshisekedi. Donc une impuissance de l'ONU, et puis une impuissance effectivement de l'opposition au régime de Joseph Kabila.
Ce qui est surprenant, c'est que l'ONU, en acceptant donc de retarder encore d'un an ces élections congolaises, n'a apparemment pas posé de conditions. À commencer par le retour en RDC de Moïse Katumbi, contraint, on le sait, à l'exil, à la suite de dossiers judiciaires manipulés, selon la conférence des évêques congolais. L'ONU évoque qu'il faut tout faire, la nécessité de tout faire pour tenir des élections dans des conditions requises d'inclusivité. Point.
C'est triste en fait, parce que les Nations Unies sont en train d'officialiser, de valider ce processus de glissement dont on a tant parlé déjà et que l'on a déjà tant condamné. Il se passera quoi en 2019 qui ne s'est pas déjà passé en 2016, 17 et 18? Est-ce que l'Est sera pacifié? J'en doute. Est-ce que Moïse Katumbi sera rentré? C'est pas sûr. Ça va continuer comme ça. Et puis l'ONU mettra les mains sur les hanches en disant, ben dites donc, c'est pas bien parce que vous avez pas respecté ce que nous vous avions vivement conseillé de faire. Il faut vraiment des mesures plus fermes, au moins un discours plus ferme.
Parce que... Stéphanie?
Ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est que l'opposition peine à mobiliser aussi la population. Donc vous avez aussi des mouvements populaires importants. Si les gens sont dans la rue, l'ONU a plus une capacité pour agir. Là, elle ne peut pas s'appuyer sur l'opposition puisque...
Oui, mais l'opposition... Il est interdit de manifester, il est interdit de tenir des meetings.
Oui, mais on a eu des interdictions de manifestation, les gens sont quand même sortis, mais les gens sont sortis déjà en janvier 2015. Il y a eu au moins 50 morts. La marche du 30 novembre, qui est une marche, est transformée en ville morte. Et Félix Tshisekedi, qu'on devait entendre, est resté tranquillement chez lui, attendant que des partisans viennent le chercher, qui sont jamais venus. Donc ça pose cette difficulté-là pour l'ONU. Ensuite, l'ONU, après, c'est de plusieurs instances aussi. Vous avez le Conseil de sécurité, effectivement, qui semble prendre acte. Après, vous avez le Conseil des droits de l'homme, qui est à Genève, qui ne cesse d'énoncer les atteintes des droits humains commis par le pouvoir et les militaires en République démocratique du Congo.
L'Union africaine est contre les sanctions, mais aussi est impuissante. Joseph Kabila reste encore au pouvoir jusqu'en fin décembre 2018. Donc tout le monde accepte le fait accompli, c'est-à-dire donc le maintien au pouvoir pour l'instant de Joseph Kabila. Mais il y a une chose, ce qu'il faut noter, c'est que le pays est assis sur un baril de poudre parce qu'il y a plusieurs signaux très très alarmants. alarmant pour les mois à venir. Plusieurs ONG qui ont publié des rapports très très inquiétants. Je cite par exemple l'ONG américaine Human Rights Watch qui a publié la semaine dernière un rapport montrant que les forces de police congolaises font appel à des ex-rebelles du mouvement M23 pour réprimer dans l'est du pays pour réprimer les manifestants qui sont hostiles à Joseph Kabila. Et puis il y a aussi une question humanitaire. Depuis les 6 premiers mois de l'année 2017, plus d'1,5 million de personnes ont fui les combats en RDC. Donc c'est quand même assez
inquiétant. Donc ça veut dire que Joseph Kabila ne partira pas sans casse, Valérie ?
Joseph Kabila partira pas. Je vois pas pourquoi il partirait. Tout lui permet de rester. Je vois pas pourquoi il s'en irait. Et les vrais gens de la rue, ceux dont on parle jamais, eh ben, je comprends qu'ils aient pas envie d'aller se faire tuer pour des opposants qui restent chez eux, qui ont surtout pas envie d'avoir des histoires, pour un opposant qui est peut-être le plus cortiqué, le meilleur, mais qui est en exil. Bon an, mal an, le pays continue. Ni pire, ni meilleur. Il y a toujours eu des ONG qui dénoncent, qui envoient des rapports. Il y a toujours eu les scandales miniers, les désastres écologiques et le reste. Ça va pas beaucoup changer. Moi, je pense qu'il se passera rien. Mais, je ne demande qu'à avoir tort.
Stéphanie, tous les partis d'opposition, excepté les forces du Rassemblement, participent à cette transition. Est-ce que les forces du Rassemblement incarnent véritablement l'opposition aujourd'hui et de manière légitime en RDC?
Ça devient compliqué de savoir qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité en RDC. Donc les leaders de l'opposition d'aujourd'hui sont ceux de la majorité d'hier. Vous avez effectivement des gens qui sont censés représenter l'opposition, donc Bruno Tshibala, Joseph Olenga-Koy, qui participent à une transition. Je pense que cet échec, c'est donc l'échec de l'ONU aussi, cette situation en RDC, c'est aussi l'échec de la classe politique congolaise. Et on parlait de la situation à l'Est, ce pays est regorge de 60 à 80% des réserves de coltan, qui est ce matériau qui sert beaucoup dans les batteries électriques, des téléphones, et de plus en plus les voitures électriques.
Qui attisent beaucoup de convoitises.
Qui attisent beaucoup de convoitises. Vous avez des multinationales, notamment comme Glencore, qui pratiquent la corruption, c'est pas moi qui le dis, ce sont des reportages qu'on a vus dans les télévisions, qui pratiquent cette corruption, donc qui aussi financent un pouvoir illégitime, qui grâce à cet argent a réussi à se maintenir. Donc il y a une convergence de forces négatives qui empêche la résolution de la crise politique.
Alors brièvement, Nadir, autre question, est-ce que les candidats pourront librement faire campagne en raison des problèmes d'insécurité, en raison des oukases qui interdisent toute manifestation, notamment dans le périmètre du gouvernorat de Kinshasa, et aller vers des élections libres et inclusives demandées par l'ONU?
C'est une très très bonne question et difficile de répondre à cette question, mais je ne vois pas le régime quand même ne pas permettre à l'opposition quand même de se présenter à ces élections. Parce que je pense qu'il sait que tout le monde, la communauté internationale, les instances comme l'ONU, auront les yeux rivés sur la RDC.
Vous pensez que le pouvoir sera beaucoup plus bienveillant et respectueux des règles concernant la campagne, Valérie ?
Non, alors moi, pas du tout. Et que le regard de l'ONU, je pense pas que ça leur fasse peur. Ça fasse peur à Kabila, le regard de l'ONU. Parce que l'ONU regarde déjà depuis 3 ans, enfin depuis 2016, et qu'il se passe rien. Non, vraiment, mais j'y crois, mais plus du tout, plus du tout.
Et puis, il y a quand même des experts de l'ONU qui ont été assassinés en RDC. C'est aussi un pas. Alors, on ne sait pas qui les a tués. RFI a fait une excellente enquête d'ailleurs dessus, donc on devine un peu qui. Donc
sur les deux enquêteurs de l'ONU au Kassai.
Ça montre la crainte de l'ONU en RDC. Et l'autre enjeu, parce qu'on parlait de la campagne, c'est effectivement pas sûr que les élections aient lieu. L'autre enjeu, c'est quand même le financement. Il faut rappeler que ces élections ont été reportées à maintes reprises parce que, soi-disant, il n'y avait pas d'argent. Il n'y en a toujours pas. Les caisses de la RDC sont désespérément vides. Alors, Kornay Nanga compte sur les partenaires extérieurs qui, eux, n'ont pas confiance. Ils n'ont pas envie de décaisser de l'argent à ce pouvoir, s'ils n'ont pas un plan budget clair.
Les caisses sont vides, mais pas toutes les poches.
Notamment, dit-on, de la sœur de M. Kabila, qui a des comptes offshore, d'après les investigations qui ont été menées par un certain nombre de journaux, dont Le Monde. RFI, TV5 Monde, la suite d'Afrique Presse, c'est notre second sujet, l'affaire Cheikh Tidiane Gayo, l'ancien chef de la diplomatie du Sénégal pendant 9 ans, de 2000 à 2009, du temps d'Abdoulaye Wade, est accusé de corruption et de fraude fiscale présumée par la justice américaine. Nadir, il a été arrêté le 24 novembre à New York, puis remis en liberté provisoire quelques jours plus tard contre une caution de 1 million de dollars et une assignation à résidence dans l'état du Maryland. Alors, on lui reproche en gros d'être intervenu au Tchad en faveur d'intérêts pétroliers chinois et d'avoir été rétribué, d'avoir reçu des honoraires. L'ancien ministre rejette ces accusations et se présente dans cette affaire comme un simple lobbyiste, une activité qui a pignon sur rue aux États-Unis.
Il risque, il faut le dire, il risque très gros.
D'abord, en fait, il n'a rien à se reprocher parce qu'il fait un job de lobbyiste.
Oui, effectivement, ce qui intéressant de noter, c'est qu'il y a une absence de transparence concernant ces activités de lobby, ces relations entre hommes d'affaires et chefs d'État, la manière dont, par exemple, sont implantées des entreprises étrangères en Afrique, mais pas simplement, notamment les entreprises chinoises. Il y a aussi une absence de transparence concernant d'éventuels conflits d'intérêts. Et concernant, je sais que Tidiane Gadio, il faut se rappeler qu'en 2012, ils fondent un institut qui s'appelle l'Institut panafricain de stratégie. Donc c'est un think tank qui œuvre à l'unité continentale. Mais dans le même temps, ils dirigent un cabinet de consulting. Donc c'est un mélange qui peut prêter à confusion. Maintenant, aussi un autre élément aussi intéressant à noter, c'est que les lobbyistes africains pro-chinois sont dans la ligne de mire de l'administration Trump. Parce que souvenez-vous, en août 2017, l'ancien ministre guinéen des mines, Mahmoud Thiam, a été condamné aux États-Unis à 7 ans de prison pour pot de vin, corruption et blanchiment.
Mais attention, l'affaire avait commencé bien avant l'arrivée de Trump.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un coup d'accélérateur quand même depuis l'arrivée de l'administration Trump aux affaires, puisque ces derniers mois, on voit le FBI, on voit la CIA, on voit la justice fédérale déterminée à s'attaquer à la manière dont fonctionnent les entreprises chinoises et aussi la manière de se font les affaires et la manière de faire des lobbyistes africains pro-chinois.
Alors on dit, Valérie, que les enquêteurs avaient dans leur collimateur Cheikh Tidiane Gadio depuis 3 ans. On en veut particulièrement à Cheikh Tidiane Gadio. On lui reproche de faire un job que beaucoup de cabinets, d'avocats ou d'anciens responsables, y compris d'administration, de gouvernement aux États-Unis, pratiquent, c'est-à-dire le lobbyisme.
Il y a eu une petite erreur de la part de Gadio. Il a dû mal appréhender la justice américaine, ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire. Cette petite erreur de compréhension a fait boule de neige et a des conséquences désastreuses. Il est légitime de dire, mais quel apporteur d'affaires ne se ferait pas rémunérer pour apporter une affaire? Donc, d'accord, il y a eu des choses qui se sont produites et qui relèvent plus de la méconnaissance, et pourtant, il est résident américain depuis très longtemps,
au moins.
Un petit peu trop d'arrogance, un petit peu trop d'assurance, et hop, il s'est fait rattraper. Je pense aussi que c'est peut-être un peu un bouc émissaire pour cacher autre chose, parce que ça sert d'écran de fumée. Et puis, bon...
Stéphanie, sur ce conflit d'intérêts, rappelons quand même que Cheikh Tidiane Gadio a de chauds partisans au Sénégal et en dehors du Sénégal. Mais l'ancien chef de la diplomatie a aussi ses détracteurs qui lui reprochent notamment à la fois d'être à la tête de ce think tank, boîte à idées sur le développement, l'avenir de l'Afrique, et puis d'un autre côté, son job de conseiller. Donc, conflit d'intérêts, et ce conflit d'intérêts, finalement, se traduit par ce business qu'il a mené, cette médiation ou intermédiation en faveur des pétroliers chinois au Tchad.
Je crois qu'il est lui aussi, je crois qu'il est d'ailleurs, bon, je voulais préciser qu'il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal, donc pour ajouter au mélange des genres. Cela dit, je dois dire que c'est un moi je trouve que c'est un homme intelligent qui avait une bonne connaissance des enjeux internationaux, il faut dire, c'était ce qu'il faisait ces derniers temps. Il faisait beaucoup de conférences pour donner son avis notamment sur la crise des migrants. Il était à l'origine du forum de sécurité de Dakar qu'on lui a un peu piqué. Cela dit, la justice américaine.
Enfin, il n'était pas le seul à avoir l'idée. L'idée, c'était Macky Sall, et lui, il a mis en musique. Je dirais, il l'a traduit.
Bien sûr, mais la justice américaine est très bien faite, et à partir du moment où des fonds circulent par une banque américaine, la justice a le droit de mettre son nez là-dedans. Il est accusé d'avoir enfreint la loi sur la corruption d'agents étrangers, et quand vous lisez le communiqué du département de la justice, du département américain de la justice, et le communiqué insiste sur le fait que ce genre d'accusation nuit au libre marché, à la concurrence entre les entreprises et à notre économie, c'est-à-dire donc à l'économie américaine. Donc, les États-Unis ont un ensemble, un arsenal juridique
qui nuit aux intérêts américains.
Protéger, voilà, leurs intérêts.
Alors, venons-en au Tchad dans cette affaire Nadir, dans l'entourage du pouvoir à N'Djamena, on dit que finalement c'est de l'acharnement. Et là, pour le coup, l'acharnement du président Trump contre leur président,
exactement,
contre le Tchad, puisque
exactement,
le Tchad fait partie des pays mis au ban des États-Unis par le décret migratoire, le deuxième décret migratoire de Donald Trump.
Exactement, et c'est l'autre volet intéressant dans cette affaire, c'est-à-dire qu'on voit depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines maintenant, Idriss Déby monter au créneau, parler de complot international contre le Tchad, parler d'agenda caché pour détruire le Tchad. On sait que les relations, vous l'avez dit, sont très mauvaises entre l'administration Trump et Idriss Déby, qui n'a pas digéré, et on peut le comprendre, l'interdiction faite par les États-Unis d'interdire d'accès au Tchad sur le territoire américain. Mais j'ai envie de dire que bizarrement, ça peut le servir, ça le sert aussi, ce qui se passe. C'est-à-dire que Idriss Déby fait appel au patriotisme, à l'unité nationale, et s'est trouvé un ennemi commun, c'est-à-dire les États-Unis. On a vu le 26 novembre dernier, par exemple, des centaines de personnes manifester à N'Djamena pour dénoncer l'attitude des États-Unis. Donc, pendant qu'on fait cela, on oublie un peu de parler de la situation économique, quand même, qui est catastrophique au Tchad. On oublie de parler de la grève des magistrats dans le pays et de la situation des droits de l'homme actuellement au Tchad.
Valérie.
Oui, c'est ça. C'est là aussi, c'est l'écran de fumée. Il vaut toujours mieux se trouver des ennemis à l'extérieur plutôt qu'on nous fasse remarquer nos problèmes à l'intérieur. Donc là, c'est l'écran de fumée. Ça permet de focaliser un petit peu l'attention, de faire unité nationale contre le grand méchant, le grand Satan américain. Enfin, ça s'est
revu. Est-ce qu'on imagine, Valérie, au fond, le président Déby se contenter d'une petite enveloppe de 2 millions de dollars de com, parce que c'est ce qui a été indiqué, c'est quand même peanuts pour un chef d'État.
Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas
de. À mon avis, il y a toute la
difficulté. Non, puis, bon, pour le moment, il y a présomption d'innocence,
absolument,
on ne sait pas.
Hein.
Donc voilà, mais moi, je trouve que ça pourrait aussi poser la question de la reconversion des anciens ministres et hauts fonctionnaires et présidents, etc. Comment est-ce qu'on arrive à avoir été ministre des Affaires étrangères et puis aller faire des petites affaires, encore que le mot petite soit un euphémisme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de servir le pays au service duquel il a déjà été pendant longtemps comme ministre, d'une façon différente, plutôt que d'aller investir aux États-Unis ou s'investir aux États-Unis dans des conférences,
etc. Est-ce que ça sème le doute sur la diplomatie sénégalaise du temps de Cheikh Tidiane Gayo ou pas, Stéphanie ?
Pas forcément, non. Mais par contre, effectivement, ça sème le doute sur les pratiques des ministres, les relations troubles entre des multinationales, des partenaires étrangers. Voilà, comment ces gens
mais
ont servi la politique
font,
se recycle. Et en Europe
ministres,
aussi, vous avez la même chose.
Ils utilisent leur carnet d'adresses.
Je pense que l'ONU devrait s'intéresser d'ailleurs à ça.
Tout le monde ne prend pas des commissions comme apporteur d'affaires. Qu'on fasse une conférence comme Barack Obama vient à Paris, fait une conférence, il est payé très cher, c'est une chose. Mais qu'on utilise son carnet d'adresses pour permettre des forages ici, des pipes là, c'est complètement différent quand même.
En espérant tout de même que l'intervention de Gayo, évidemment, ne portait pas du tout atteinte aux intérêts des Tchadiens, Nadir.
Oui,
et que ce contrat avec les Chinois sont retournés d'ailleurs. Après avoir été exclu du Tchad pour pollution notamment.
Oui. Mais ça pose aussi la question aussi de l'implantation des entreprises chinoises en Chine, qui font quand même un forcing et un lobbying très très intense depuis des années, et ils font appel à des personnalités, des lobbyistes comme Monsieur Gadio, mais aussi d'autres. Effectivement, tout cela, c'est ce que je disais au début, tout cela n'est pas très clair et pose la question de l'absence de transparence, dans les manières dont les entreprises s'implantent. Par exemple, je pense aussi, on peut citer le cas de Bolloré, par exemple. Voilà, comment Bolloré aussi s'implante dans certains pays que nous connaissons bien, comme le Gabon, comme le Togo, ça pose la question de l'implantation des entreprises, et puis comment d'anciens ministres qui se transforment en lobbyistes font jouer leur réseau, leur carnet d'adresses pour permettre l'implantation de ces entreprises.
Un dernier mot,
juste Stéphanie. Pour dire que toute peine cumulée, peine maximale cumulée, irait jusqu'à 50 ans de prison chaque
citoyen
aux États-Unis. Oui, et plusieurs millions de dollars d'amende.
Voilà, Valérie.
Mais maintenant, il a les moyens de se payer un bon avocat.
Bon, en tous les cas, ce sont quatre amis qui se sont réunis, paraît-il, pour lui permettre de payer sa caution $1 million, dont une de ses anciennes épouses, chez laquelle il est assigné en résidence surveillée dans le Maryland. Voilà, vous savez tout. Okay. Et c'est la fin de cette émission. Merci Valérie Thorin, Stéphanie Hartmann, Nadir Djenad, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver, bien sûr, sur les sites internet respectifs de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et à la semaine prochaine.